Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Peut-on autoriser les médecins de famille à pratiquer la sédation profonde et continue sur leurs patients en fin de vie à leur domicile ? Oui, dit la Haute Autorité de Santé dans une recommandation qu'elle publie ce matin. Nous y reviendrons dans un instant. Le patron de la Fédération des sports de glace a finalement démissionné ce week-end. L'omerta sur les violences sexuelles dans le sport est en train de tomber, analyse à suivre. Dans ce journal également, nous irons en Éthiopie où l'on s'organise pour contrer une éventuelle contamination au coronavirus. Le bilan en Chine est de 908 morts. Et puis vous entendrez l'alerte de l'association Handicap International. Elle souligne que les conflits au XXIe siècle font beaucoup plus de victimes civiles qu'auparavant. La Haute Autorité de Santé veut donc favoriser la sédation continue à domicile. Cette sédation profonde et continue est prévue par la loi Leonetti de 2016. En théorie, cette loi s'applique à l'hôpital comme à domicile, mais dans les faits, les médecins de ville n'ont pas accès aux médicaments requis, Véronique Julien.
Comme les hospitaliers, les médecins généralistes sont confrontés quotidiennement à des situations de patients en fin de vie. Le médicament le mieux indiqué pour une sédation profonde, c'est le midazolam, qui permet de suspendre la conscience du patient. Problème, ce médicament hypnotique et sédatif utilisé en anesthésie n'est disponible qu'à l'hôpital. Il est donc très compliqué pour un médecin libéral de s'en procurer. Dans sa recommandation, la Haute Autorité de Santé explique précisément comment utiliser ce produit pour une sédation continue et laisse entendre qu'en respectant ce bon usage, le midazolam doit pouvoir être accessible au médecin libéral et pouvoir être dispensé en ville comme à l'hôpital. Satisfaction logique du docteur Jean-Paul Hamon. Il préside la Fédération des médecins de France et il défend depuis des semaines le docteur Méheux, un confrère normand mis en examen au mois de novembre pour s'être procuré illégalement du midazolam.
Ça fait des années qu'on réclame que le médecin généraliste puisse utiliser le midazolam. Ça fait des années qu'on bricole, qu'on contourne la loi. C'est contraignant, c'est extrêmement lourd et c'est une bonne chose que ce premier pas-là soit fait.
Ce sera plus simple pour le médecin généraliste, plus confortable aussi pour le patient et sa famille. La Haute Autorité de Santé précise toutefois que la démarche devra reposer sur une décision collégiale prise à plusieurs en concertation et surtout pas sur une décision unilatérale du médecin.
Le corps de la petite fille d'un an disparue ce week-end a été retrouvé à Angers hier. Une alerte enlèvement avait été déclenchée pour retrouver cette petite fille du nom de Vanille et sa mère qui ne l'avait pas remise aux services sociaux. Sa mère a donc finalement été retrouvée seule hier. Elle a avoué le meurtre de sa fille. Elle était hébergée depuis un an dans le centre maternel d'Angers, un foyer pour femmes enceintes et mères isolées. Sa fillette avait été confiée à l'aide sociale à l'enfance, mais elle pouvait continuer à voir sa mère régulièrement pendant un temps donné durant la semaine. Moins d'une semaine après l'appel à la démission lancé par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, le patron de la Fédération des Sports de Glace, Didier Gayaguet, a démissionné ce week-end. Cela s'inscrit dans le sillage d'un vaste scandale de violences sexuelles qui touche sa fédération, mais aussi tout le sport français. Une parole libérée, une parole nécessaire et inévitable qui appelle à un sursaut collectif pour Pascal Boniface. Le géopolitologue du sport et directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques estime qu'on va vers la fin de l'omerta.
Le sport, comme les autres secteurs de la société, est atteint par la vague MeToo et ce qui était autrefois tu, caché, honteux est désormais public. La parole s'est libérée et donc elle s'est libérée également dans le domaine du sport. On voit bien sûr que c'est dans des secteurs très particuliers, des sports individuels où l'entraîneur masculin avait l'ascendant sur une jeune sportive, qu'il y a le plus de révélations et certainement le plus d'atteintes. Mais on peut penser que d'autres secteurs sont également concernés et qu'il sera désormais impossible de cacher cela et de contenir la parole des victimes. Même si les cas sont prescrits, je crois qu'il est normal de les mettre à la lumière, de les révéler au public, ne serait-ce que pour accélérer la prise de conscience. Et puis cela aussi un rôle dissuasif si on sait qu'on peut être dénoncé et que les forfaits ne seront plus cachés et enterrés, eh bien, il y aura certainement un effet dissuasif pour l'avenir.
C'était Pascal Boniface, interrogé pour France Culture par Sarah Ders. Une trentaine de nouveaux rapatriés évacués de la province chinoise de Hubei sont arrivés hier près de Marseille. Ils vont y rester en quarantaine pendant 14 jours, alors qu'une vaste opération de dépistage a débuté par ailleurs en Haute-Savoie, aux Contamines. C'est là que 11 Britanniques ont contracté le coronavirus après avoir côtoyé un homme de retour de Singapour. Le coronavirus qui a tué 908 personnes en Chine, plus de 40 000 sont contaminés. Une équipe d'experts internationaux placée sous l'égide de l'OMS s'est envolée tout à l'heure pour Pékin, mais une possible stabilisation du virus est déjà annoncée sur place. Et il est un continent où aucun cas n'a encore été découvert. En Afrique, un sommet de l'Union africaine se tient jusqu'à aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie. Et même si le virus ne s'y propage pas, les 55 membres de l'organisation continentale s'en préoccupent tout de même, Vincent Dublange.
Dans l'immense centre de conférence offert par la Chine à l'Union africaine en 2012, les contrôles de sécurité sont intenses. Mais une fois passés les portiques, le diplomate ou le journaliste doit encore passer une étape. Contrôle de la température corporelle obligatoire. Même pour les VIP, assure Joseph, employé par le CDC Afrique, le centre de prévention et de contrôle des maladies de l'UA. Son patron, le docteur John Kengasong, assure que l'institution est chaque jour davantage prête à faire face aux premiers cas sur le continent.
Nous venons de terminer une formation au diagnostic au Sénégal pour 15 pays. Nous espérons qu'à partir de ce lundi, ils seront prêts à détecter avec certitude le virus.
20 autres pays devraient recevoir la même formation. L'Organisation mondiale de la santé a par ailleurs envoyé des kits de tests. Il y a encore quelques jours, seuls l'Afrique du Sud et le Sénégal étaient équipés. La Chine a fourni 3000 kits que l'Union africaine conservera en secours. L'Organisation panafricaine a aussi formé 14 personnes prêtes à rejoindre en 24 heures tout pays qui détecterait une personne malade. Le contrôle de la température est un domaine sur lequel le CDC Afrique travaille aussi. Le personnel de l'aéroport de Bolé à Addis Abeba a été formé. Le Kenya devrait suivre. Contrairement à ses homologues continentaux, la compagnie Ethiopian Airlines, première du continent, n'a pas suspendu ses vols vers et depuis la Chine. Cela respecte les préconisations de l'OMS, selon le docteur Nkengasong.
C'était Vincent Dublange, correspondant en Éthiopie de RFI pour France Culture. Les législatives irlandaises qui ont eu lieu hier s'annoncent extrêmement serrées. Le Premier ministre Leo Varadkar est confronté au risque d'une poussée inédite des nationalistes du Sinn Féin. Sans attendre les résultats finaux, il cherche d'ailleurs déjà des alliés pour former un éventuel gouvernement. Mettre fin aux bombardements civils, voici l'objectif de la rencontre entre une douzaine de représentants d'État et différentes ONG ce lundi à Genève. Les négociations ont en fait débuté en octobre dernier et doivent conduire à un texte présenté en mai prochain à Dublin. L'association Handicap International participe à cette discussion. Baptiste Chapuis est chargé du plaidoyer des armements. Il s'inquiète, vous allez l'entendre, du nombre toujours plus croissant de victimes civiles lors des conflits.
Lors de la Première Guerre mondiale, 15% des victimes des conflits armés étaient des civils. Aujourd'hui, dans les conflits urbains, plus de 90% des victimes sont des civils. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale s'est mobilisée, le secrétaire général de l'ONU, la Croix-Rouge et aussi un groupe d'ONG dont Handicap International fait partie, pour mettre en place un engagement politique visant non pas à interdire ces armes, mais à encadrer ces pratiques disproportionnées qui aujourd'hui impactent des milliers de civils. Après la bataille de Kobané, par exemple, vous aviez 10 munitions non explosées au mètre carré. Il faut imaginer ce que ça peut représenter dans une ruelle de Paris pour se dire que ces pratiques-là aujourd'hui sont inacceptables. On démine encore des bombes de la Seconde Guerre mondiale en Normandie. Imaginez ce que sera la Syrie et le Yémen demain. Est-ce que ces pratiques-là, nous souhaitons les voir revenir demain dans nos villes? Non, alors pourquoi devrions-nous les tolérer en Syrie, au Yémen et en Ukraine? Nous avons décidé d'y mettre un point final et c'est pour cette raison-là que ce processus politique est si important.
Des propos recueillis par Pauline Josse. Carton plein pour le film sud-coréen Parasite aux Oscars cette nuit. Il a été sacré meilleur film devant 1917 de Sam Mendes. En s'imposant dans la catégorie reine, le film a parachevé une soirée historique cumulant les prix du meilleur film donc, du meilleur réalisateur pour Bong Joon-ho, du meilleur scénario original et du meilleur film international, devant donc le français Les Misérables de Ladj Ly. Et pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, une partie de l'Europe de l'Ouest est sous la tempête Ciara, ce qui a des conséquences sur les transports, vols annulés, ferries interrompues entre la France et l'Angleterre, trafic ferroviaire à l'arrêt dans l'Ouest de l'Allemagne, perturbé aussi dans le Nord de la France. 32 départements du Nord de la France d'ailleurs sont placés en vigilance orange, cela va du Finistère jusqu'au Bas-Rhin, en passant par le bassin parisien ce matin. Voilà donc pour une partie de la météo du jour. Un temps bien humide est prévu ce lundi. Ce matin, il fait 8 degrés à Lille, 10 à Rennes, Paris et Strasbourg, 12 à Bordeaux, 14 à Marseille.